Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi spécial Jacques Vacher en compagnie de Philippe Pijard. C'est la collection Poésie chez Point qui vient de publier en poche ces lettres de guerre de Jacques Vacher, 1915-1918. Comment vous êtes-vous retrouvé, Philippe Pijard, comme tant d'autres poètes fascinés, dans le sillage du météore désinvolte, parce que c'est le titre que vous avez choisi de donner à ce recueil de lettres.
Ma relation à Vacher date d'il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est un peu la conclusion, une conclusion, en tout cas un épanouissement. Je suis tombé sur ces lettres quand il y a une vingtaine d'années, 70 ans après qu'elles aient été envoyées, et j'ai été saisi tout de suite par l'énigme Vacher, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut écrire des choses pareilles à 20 ans dans le contexte de la guerre de 14, contexte particulièrement barbare et funeste, avec cet ultra-détachement qui est légendaire. Donc c'était une enquête à la base.
Qui était ce Jack de Nantes, comme l'on dit parfois parce qu'il signait Jack, le Jacques Vacher en question, à part un épistolier, puisque en fait toute son œuvre qui est passée à la postérité tient en quelques lettres.
Là c'est effectivement 64 lettres choisies parmi 150. C'est effectivement le corpus quasiment complet de Vacher. Il y a une quinzaine de textes épars en dehors des lettres. Et effectivement, son œuvre consiste, si on veut appeler ça une œuvre, je pense que c'est sa vie, l'œuvre Vacher, sa courte vie, son bref passage sur Terre, consiste principalement dans des lettres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il échappe au radar de l'université, qu'il est très très peu étudié, et que c'est sur la passion de quelques chercheurs qu'on a aujourd'hui des documents passionnants qui permettent d'y voir un peu plus clair, d'y voir peut-être un peu mieux que la légende qu'on a figée Breton une année après sa mort, en fait.
Bertrand Lacarelle avait signé un essai biographique sur Jacques Vacher, qui, comme Arthur Cravant, n'a laissé aucun livre, finalement. L'œuvre, pour vous, c'est l'homme et l'existence même. Ces lettres-là, donc titrées dans le sillage du météore désinvolte, vous empruntez l'emblème à Guy Debord ? Ça vient d'où, cette mythologie météorologique concernant Jacques Vacher ?
En fait, dans le sillage du météore désinvolte, c'est le titre d'une pièce que j'ai créée l'année dernière à la Maison de la Poésie, et qui présentait une quarantaine de lettres mises en son et un peu mises en scène. C'est pas du théâtre, c'est une lecture, mais assez. Il y a du son, il y a de la lumière, et il y a la voix de Jacques Vacher portée par une voix masculine, la mienne, et une voix féminine, qui représente un peu Jeanne d'Arc, sa marraine de guerre, qui en l'occurrence était tenue par Véronique Ovaldé.
On a entendu la voix de cette marraine de guerre, vieille dame, sur France Culture, et il y a de ça quelques années, où elle évoquait ce jeune homme, ce Jacques Vacher. C'était assez émouvant parce qu'il y a l'idée qu'à la fois elle l'a connu, mais il y a très longtemps, et qu'il y a eu longtemps une part de secret et de non-dit autour de lui, puisque sa mort plutôt mystérieuse à 23 ans, le 6 janvier 1919, place Gralin à Nantes, dans un hôtel, sur un lit, dénudé aux côtés d'un ami, dénudé aussi, dos à dos, tous deux visiblement ayant pris un peu trop d'opium, a fait que la famille Vacher a laissé tout cela sous le boisseau. Oui, et donc elle en parle dans ce temps-là retrouvé, et c'est assez inouï. Si
c'est un témoignage inouï, édifiant, très émouvant. C'est un fait, c'est une dame âgée, qui est vraiment à l'hiver de sa vie. Et malgré tout, on a l'impression que ça se passe il n'y a pas si longtemps que ça. Elle en parle avec une fraîcheur et un souvenir qui est très net. Son témoignage apporte un sérieux contrepoint, quand même, à la légende figée par Breton et puis confirmée par ses lieutenants et qui a couru jusqu'au début des 70, en fait. Et qui présente un peu le jeune homme qu'elle nous fait apercevoir derrière sa légende, quoi. Et c'est aussi grâce à cet élément, moi quand je l'ai découvert, j'étais, c'est par hasard, en fouillant dans les archives de l'INA, C'est un peu ce qui m'a décidé de refaire une mise à jour du travail, en tout cas de tout ce qui était à disposition autour de Vacher, sachant qu'en plus, on ne trouvait plus les lettres. Il y avait un exemplaire qui traînait sur un site internet, c'était les éditions des Mille et Une Nuits, il était vendu 70 euros, alors qu'à l'origine, il coûtait 2 francs, si je me souviens bien. Donc il était temps de remettre à disposition ces lettres, c'est ce qu'a décidé cette édition, en fait.
Chez Point.
Chez Point, oui. En poche, pour aussi que ce soit accessible, parce que il y a des belles éditions de Vacher. Bon, il y a celles qui datent de 19, de 49, et puis il y en a quelques-unes derrière qui sont toujours assez onéreuses, quoi. Là, l'idée, c'était vraiment de les rendre accessibles aussi à un public assez jeune et qui n'est pas forcément au courant de l'existence c'est un des jeunes hommes les plus magnétiques du XXe siècle, hein, c'est sûr, d'une modernité dingue. Et quand il parle de machine à décerveler, et puis toute son aptitude, toute sa facilité à la rendre inopérante, je pense qu'il y a pas mal de leçons à tirer de son attitude pendant la guerre. Et quelque part, c'est un traité de résistance, ces lettres.
J'ai successivement été un littérateur couronné, un dessinateur pornographe connu, et un peintre cubiste scandaleux. Maintenant, je reste chez moi, à l'époque il a 22 ans, et laisse aux autres le soin d'expliquer et de discuter ma personnalité d'après celles indiquées. Le résultat m'importe. C'est une lettre donc de Jacques Vacher à André Breton, qui date d'octobre 1916, et vous, Philippe Pigère, dans cette anthologie, en fait, de sa correspondance, ce que vous notez en préface, c'est sa chevelure avec cette chose totalement troublante qui est que sa petite nièce vous aurait dit que lorsqu'ils ont procédé à des réductions de corps...
Des tombes, on appelle ça.
Ses cheveux flamboyaient toujours.
Exactement.
Presque
un siècle après. Et ça fait suite à un tas de témoignages qu'on a autour de sa chevelure où les gens essayent, tournent autour de cette couleur, de ce flamboiement, sans arriver précisément à dire, mais au fond...
Il était roux, il était blond.
Voilà, c'est entre le blond et le roux, il y a des reflets d'or dans le soleil. C'est jamais très, très... On tourne autour sans jamais pouvoir le nommer, et c'est le fait qu'il échappe, en fait, qui est intéressant là-dedans, parce que je pense que c'est un jeune homme épris de mouvement, de vitesse, et qui se définissait surtout dans l'échappée. Et je trouvais que la légende du dandy des tranchées était bien trop figée pour le contenir.
Et pourtant, il a peu bougé. Il était même retranché. Sa marraine de guerre parle de ce qui l'a touché, elle. C'était sa façon d'être à l'écart, à la marge, parce qu'ayant du mal à se fondre dans ce décor plutôt barbare et grégaire.
Oui, en même temps, je pense qu'il habitait le monde en poète, vraiment. Alors, je pense qu'il aurait bondi. S'il entendait qu'on aujourd'hui, on l'appelait poète. Voilà. Alors, ça, c'est les poètes avec un H. Ça, c'est comme ça qu'il qualifiait Breton.
C'est le H qu'il a enlevé à l'humour.
Voilà.
Qu'il rajoute au poète.
Qu'il rajoute à amical aussi. Effectivement, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement solitaire, seul, mais qui a une acuité terrible, redoutable sur le monde qui l'entoure, et qui est particulièrement lucide, je dirais même extra-lucide, et même prophétique par moments. Il a des façons d'envisager l'art et la vie.
Avant Dada.
Avant Dada, juste
avant.
Avant
Marcel Duchamp,
absolument,
Jacques Vacher.
Absolument. Et bon, alors Soupeau a dit qu'il aurait fait la lecture du manifeste Dada à Vacher. Ça a été contesté par Breton. Peu importe, en fait, l'idée de toute façon, c'est que ces lettres précèdent Dada et qu'elles portent un esprit qu'on va retrouver effectivement et que les avant-gardes vont s'arracher tout au long du siècle.
France Culture, ça rime à quoi ? Sophie Nello.
Dans ce livre, Philippe Pigard, vous avez joué d'un petit côté cinématographique en expliquant d'abord qui était Jacques Vacher, et puis après en déclinant à la fois l'identité de cet expéditeur et puis celui des destinataires par ordre d'apparition. Mm-hmm. C'était pour tenir le suspense en haleine.
Oui, avec la volonté quand même de tenir la lumière dans les moments où c'est un petit peu le temps est passé, c'est passé 100 ans, les références ont un peu disparu, certaines personnes ne connaissent aucun des destinataires où c'est une vague connaissance, on connaît André Breton, peu de gens connaissent Frankel.
Théodore Frankel. Le médecin qui a soigné aussi Robert Desnos.
Voilà, homme monumental. J'ai le projet de faire un travail sur lui parce qu'il faut absolument mettre à jour comment cet homme a traversé le siècle, comment il s'est engagé dans des conflits dans des conflits inouïs. Et c'est normal que je pense qu'à l'hôpital de Nantes, quand Vaché est blessé au moment de la seconde offensive de Champagne, il est retiré du combat, du théâtre des opérations, et il se retrouve à Nantes, à l'hôpital. Il fait la connaissance et à la fois de Jeanne d'Arien, de Frankel et de Breton. Je pense que c'est Frankel qu'il voit en premier, en tout cas des deux avec Breton, et que Frankel parle à Breton de Vaché, et que ça se fait dans cet ordre-là.
Et vous, Philippe Pijard, alors qu'est-ce qu'il y a dans ces lettres de Jacques Vaché, donc des lettres de guerre écrites dans les tranchées, à la fois à sa mère, à quelques amis, qu'ils soient André Breton, Louis Aragon, ou moins célèbres mais quand même assez peu, Théodore Frankel également. Qu'est-ce qu'il y a dans ces lettres de si extraordinaire, qui vous bouleverse un siècle après?
Ce qui me bouleverse, bon, c'est la jeunesse du personnage et donc cette écriture qui est quand même extrêmement puissante et forte, avec des blocs d'images qui surgissent en voyant au diable l'histoire des liaisons. À la limite, on s'en fiche, hein, c'est une collision de blocs. Ça surgit, une logique de l'éclat. Lorsqu'on lit une lettre de Vaché, les images apparaissent très nettes, très brillantes. Il n'y a aucun lyrisme, il n'y a aucune boursouflure patriotique. Il est quand même dans un contexte historique, social, où à l'époque, beaucoup de gens s'engagent à tort et à travers dans des discours plus ou moins douteux. À lui, il est complètement à côté de ça. Il a une écriture absolument pure. Il n'en fait qu'à sa tête, qu'à son bon vouloir. Je pense avec beaucoup de peine. Je pense que c'était quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi de la tournure de son esprit, que c'était quelqu'un d'assez solitaire, qui souffrait aussi de sa solitude. Néanmoins, il laisse une trace extraordinaire, et vraiment extraordinaire.
Le météore, c'est aussi le côté télégraphique. Des casernes tirées, des grandes cours carrées où sonnent quelques clairons tirés, des trains tirés, wagons à bestiaux tirés, poussière tirée, des tranchées, des trous, des bosses tirées, des mouches tirées, du bruit tiré, des odeurs horribles, des trous encore tirés, des fils de fer tirés, de la terre dans le cou. Et cette façon très foudroyante de passer de ce monde extérieur de la guerre à cette sensation très intime du coup.
Et puis il y a une pulse là-dedans, hein. Il y a quelque chose de l'ordre du rythme qui préfigure déjà le jazz. On entend, il y a sa ponctuation qui est très particulière, il a une orthographe aussi qui méprise souverainement, hein. Il y a plein de, entre les futurs et les conditionnels, il y a beaucoup d'hésitation sur la première personne. Et c'est cette modernité, j'ai l'impression, en fait, quand on lit ces lettres, et qu'il faut se mettre dans la tête que ce sont des lettres de poilu,
hein, quelque part. Écrites dans des conditions.
Écrites dans des conditions terribles, parce que ce n'est pas du tout un embusqué, Vaché, encore une fois. C'est un soldat assez courageux, il s'est engagé, il a souffert, il a été blessé 4 fois, il a été décoré pour son courage.
Et même décoré après sa mort, parce qu'il était toujours sur les listes des guerriers, et donc alors qu'il est mort d'une surdose d'opium, sa mère a reçu un mot du gouvernement français le félicitant
diplôme,
pour
voilà, de mort,
sa mort pour la
mort
France.
Pour la France, ouais.
Je pense c'est que une c'est, ironie.
Qui a dû être terrible pour sa maman, qui était accablée, hein, qui a beaucoup souffert de la perte de son fils. Ce livre a été sous l'occasion d'une plongée vraiment dans ses origines familiales, dans le tissu familial, dans sa cellule, d'où il venait Vaché. Donc, qui était son père, sa mère.
Il est né à Lorient. 1895.
Il est né à Lorient. Il est parti très vite, en fait, à l'Extrême-Orient.
En deux mots.
Oui. Il a connu l'Asie, il a connu. Je pense que c'est des images, il a connu les fumeries d'opium, hein, il les a vues, hein, il a vu la pénombre des fumeries d'opium. Sa mère, lors des traversées qu'il a emmenées jusqu'en Asie, a perdu pas mal de grossesses. Il y a une présence de la mort et du drame dans cette famille. Il y a ce cousin orphelin qui vient habiter chez les Vaché au moment où Jacques entre au lycée. Ce cousin va prendre un peu une place d'aîné puisqu'il est un peu plus âgé et il embrasse la carrière militaire. Comme le père de Jacques Vaché, qui, rappelons-le, est un militaire de carrière assez rigide. Et je pense que l'arrivée de ce garçon va un petit peu laisser le champ libre, en fait, à Jacques, qui va pouvoir expérimenter avec les amis de son lycée.
Les Sars.
Les Sars, qui vont produire des revues qui vont aller jusqu'à irriter profondément les Saint-Cyriens de Nantes. Et son frère, donc ce demi-frère, le cousin Jean Montagnier, était Saint-Cyrien lui-même, donc... On voit bien que là, il commence à ruer dans les brancards à venir, on va dire.
Le côté mauvaise troupe.
Le côté mauvaise troupe, ouais. Et en même temps, et c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est un soldat qui fait son boulot, quoi.
Et qui écrit à sa mère, depuis le bois où il est cantonné, jusqu'ici, c'est une vie épatante.
Oui. Alors ça va pas durer, hein, parce que Il y a aussi, il faut faire un peu la part des choses, il écrit à sa mère, ce qui ne veut pas inquiéter évidemment, comme tous les poilus de l'époque. On a tendance à avoir une version du front qui est un peu édulcorée et un peu arrangée. Il est un peu plus, je pense, vrai et plus direct avec sa tante. Et les lettres à sa tante, au-delà des lettres à Breton qui sont beaucoup plus travaillées, hein, beaucoup plus recherchées, on va dire, avec des images plus poussées, les lettres à la tante sont désarmantes. Il se confie à elle. Alors, il faut dire qu'il a vécu avec elle. Hein. Quand ses parents étaient encore en Asie, il est revenu à Nantes pour vivre. Il a habité chez elle. Ils ont une proximité. Je pense qu'il avait la latitude de tout lui dire. Quand il lui raconte sa blessure, il y va directement. Il ne cherche pas à arranger quoi que ce soit. Hôpital temporaire numéro 25, Nevers, le 30 septembre 1915. Je reçois à l'instant ta carte et y réponds. Mes blessures sont douloureuses, mais peu graves, des petits éclats dans les jambes. J'ai écrit longuement à maman pour lui expliquer comment j'avais été blessé. Peut-être as-tu vu la lettre au moment où je t'écris. Un sac de grenades qui éclate à côté de moi, les miennes qui s'en mettent, voilà toute l'affaire. Mais ce que je ne pourrais jamais dire, c'est la chance que j'ai eue. Quand je pense que plus de 30 grenades explosives ont éclaté à mes pieds, alors qu'une seule avait blessé 19 boches sous mes yeux, et que je portais de quoi asphyxier un régiment, sans compter une espèce de cylindre incendiaire, Excelsior, dit le prospectus, d'un modèle nouveau, je me demande comment j'ai pu en réchapper. Et un peu plus loin, il raconte que la veille de l'attaque, il a reçu un colis de sa tante, il recevait fréquemment du chocolat, des brioches, enfin, etc. J'ai reçu la veille de l'assaut ton aimable colis, la brioche fut unanimement trouvée digne d'aval, j'imagine que c'était un pâtissier de l'époque, mais hélas, obligé d'abandonner la boîte de chocolat faute d'eau potable, et il ne fallait pas penser à transporter du superflu à un moment où le nécessaire est déjà trop lourd. J'ai essayé de la goûter à sec, mais vraiment, c'était trop sec, surtout après la brioche. Je te remercie beaucoup, surtout des cigarettes que j'ai allumées aussitôt après avoir été blessé et qui m'ont donné le courage de faire 3 kilomètres, geignant et saignant, une vieille planche d'une main et mon revolver de l'autre, au bruit de la canonnade la plus monstrueuse que j'ai entendue.
Jacques Vacher, c'est la poésie vécue, en fait. Et s'il ne veut pas écrire un seul poème, c'est parce que sa vie en elle-même et la façon qu'il a eu d'en rendre compte était au-dessus de tout ça. Ça aurait été dérisoire face à la guerre, face à la mort,
de s'en tenir à la poésie. Oui, il n'était pas question de poétiser la guerre, de toute façon, à aucun moment. Mais par contre, je pense qu'il est la poésie dans la guerre et que c'est elle qui lui permet de résister, à ne pas crouler sous cette machine à décerveler.
Mais comment on peut parler d'un poète qui n'a jamais écrit de poème ?
Alors, il a quand même écrit quelques textes qui sont vraiment des poèmes. Si on penche, d'ailleurs, j'ai remis dans cette édition Blanche acétylène, qui est un texte qui est vraiment un poème. Il y a des passages de lettres, des séquences de lettres à Breton qui sont des poèmes, et il y a une quinzaine de textes au total qui ont été édités d'ailleurs au cours des 10 dernières années, qui sont des très bons poèmes, d'excellents poèmes, je dirais, toujours très modernes.
Jacques Vacher, c'est l'anti-Apollinaire qui, à ses yeux, rafistole le romantisme avec des fils télégraphiques.
Oui, il est très dur avec Apollinaire.
C'est très beau, mais très assassin.
Pour la petite histoire, quand même, ce qui est saisissant, c'est qu'au moment de la seconde offensive de Champagne, donc il est question de prendre la butte de Tahure. Vacher est au bas de la butte où il va se faire blesser, il va être retiré du combat juste avant l'assaut. Mais depuis des jours, à 11 km derrière, Apollinaire est à une batterie et il prépare le champ de bataille à venir en envoyant des obus sur les chevaux de frise, les barbelés, pour que le régiment de Vacher puisse avancer et reprendre le territoire aux Allemands. Donc quelque part, Vacher avance grâce à l'artillerie d'Apollinaire.
C'était impur, disait Jeanne Desrien, sa marraine de guerre.
Oui, je le pense aussi. Je pense que c'était quelqu'un qui était incapable de tricher ou d'avoir de tronquer en amitié ou en amour. Je pense qu'il laissait vraiment libre cours à la langue qu'il était en train de concevoir et de faire naître, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Parce qu'il séduisait aussi à l'oral, visiblement.
Et vous, Philippe Pijard, qu'est-ce qui vous inspire autant aujourd'hui, plus de 100 ans après, au point que le poète que vous êtes lui a consacré un spectacle, même une chanson, oui. Le petit soldat en tant que membre caché, mais tout à fait connu du groupe Tanger dans L'Amour Folle. Hein. Mm-hmm. Le petit soldat, c'est Jacques Vacher.
Oui, c'est Jacques Vacher, bien sûr. Bon, c'était aussi une chanson qui parlait du rapport de la fabrication du mal en général, hein, avec des jouets bien spécifiques, comme il y a une fabrication de la femme avec des jouets bien spécifiques. Mais oui, Jacques Vacher est une incarnation assez idéale du petit soldat.
Et du grand poète ?
Et du grand poète, oui.
Qu'est-ce qu'il impulse chez vous ?
Je pense qu'au même titre que d'autres, hein, qui sont Roger Gilbert Lecomte, Antonin Artaud, Jean-Pierre Dupré.
Les foudroyés.
Oui, c'est des gens qui... C'est les suicidés de la société. C'est des gens qui quelque part, crament leur vie, ont une existence, écrivent pour que ce qui a été demeure. Et en même temps, ça implique d'avoir une vie qui soit digne d'être demeurée. Donc, ça passe par plein d'expériences, d'expérimentations à tous les niveaux. Est-ce que l'expérimentation lui a été fatale ce fameux soir à l'Hôtel de France à Nantes ? On ne le saura jamais, ça fait partie du mystère. Et je ne fais pas partie des gens qui sont absolument obsédés par ces questions, soit sur son homosexualité, soit sur est-ce qu'il s'est suicidé ou pas. Je pense que ce n'est pas des questions fatalement très intéressantes et déterminantes pour lire ce personnage, quoi.
Et ces lettres-là, parce qu'elles n'étaient pas destinées à être lues ensuite et à faire de lui un tel mythe, en quoi elles sont si explosives encore aujourd'hui ?
Parce qu'elles ne datent pas, encore une fois. C'est que on peut lire quantité de lettres écrites à l'époque et on sent bien que dans le poids de l'époque, des tournures de l'esprit, d'un certain lyrisme un peu pesant. Là, il y a une modernité, ça parle tout de suite. Certes, il faut des fois rééclairer certains passages, parce qu'il y a beaucoup de références à des écrivains qu'il aime, à des passages de livres, des poètes qu'il aime. Ce qui est explosif aussi, c'est cette histoire de rythme, de ponctuation, de grande liberté. Je pense qu'il écrivait, c'est comme si un magnéto était sur son stylo et que... D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que quand on regarde les originaux, il n'y a pas de souci de présentation de la lettre. Il y a des ratures,
Il était aussi dans les tranchées.
Il est dans les tranchées, certes, mais c'est-à-dire quand il dessine, il met beaucoup de soin dans ses dessins.
Parce que ses lettres sont pleines de dessins.
Ses lettres sont pleines de dessins, notamment celle à Derrien. On est étonné par ça. C'est pas du tout un homme précieux, l'être précieux, dandy, qu'on veut présenter tiré à quatre épingles, là, dans les tranchées avec sa canne de jonc.
Parce que les photographies le montrent ainsi.
Oui, enfin, il y a des photographies, mais il y en a d'autres qui ne le montrent pas spécialement comme ça. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas 36 000 photos, hein, ça se résume à une quinzaine. Je pense qu'il avait effectivement une façon de toujours vouloir garder une tenue, qu'il n'était pas prêt du tout de succomber à l'anomie qui peut régner en cas de conflit comme ça, qu'il se plaignait du manque du laisser-aller des poilus en général, des vieux poilus qui ronchonnent, qui ronflent, qui sont sales. Et je crois que la précarité de la vie de garnison était un vrai souci. Mais en dehors de ça, je pense pas du tout que c'était un être précieux.
La lettre qui est cause du coup de foudre pour vous dit ceci. Je suis assez mal portant, vis dans un trou perdu entre des chicots d'arbres calcinés et périodiquement une sorte d'obus se traîne, parabolique et tous. Juste trois phrases.
Oui, c'est cette image de l'obus parabolique se traîne et tous. Tout est là, on le voit, on l'entend, on voit bien ce qu'il est en train de vivre. C'est très économe en même temps, il n'y a rien de trop. C'est très serré et il y a un agencement qui est très... à la fois complexe et lumineux. Donc je vais vous lire la lettre du 14 novembre 18 à André Breton. Bien cher ami, dans quel affalement me trouva votre lettre ? Je suis vide d'idées et peu sonore, plus que jamais sans doute enregistreur inconscient de beaucoup de choses en bloc. Quelle cristallisation ! Je sortirai de la guerre doucement gâteux, peut-être bien à la manière de ces splendides idiots de village, et je le souhaite, ou bien quel film je jouerai, avec des automobiles folles, savez-vous bien, des ponts qui cèdent et des mains majuscules qui rampent sur l'écran, vers quel document ? Inutile et inappréciable, avec des colloques si tragiques, en habit de soirée, derrière le palmier qui écoute, et puis Charlie, naturellement, qui rictus, les prunelles paisibles, le policeman qui est oublié dans la malle. Téléphone, bras de chemise, avec des gens qui se hâtent, avec ces bizarres mouvements décomposés. William R.G. Eddy, qui a 16 ans, des milliards à nègre livré, de si beaux cheveux blancs cendres et un monocle d'écaille. Il se mariera. Je serai aussi trappeur, ou voleur, ou chercheur, ou chasseur, ou mineur, ou sondeur. Bar de l'Arizona, whisky, gin and mixed, et belles forêts exploitables, et vous savez, ces belles culottes de cheval à pistolet mitrailleuse, avec étang bien rasé, et de si belles mains à solitaire. Tout ça finira par un incendie, je vous dis, ou dans un salon, richesse faite. Well.
C'est souvent qu'il finit par well, Jacques Vacher.
Well.
Combien de noms, combien de pseudonymes pour le jeune Jacques Vacher?
Je crois qu'il y en a près d'une dizaine, peut-être 8 ou 10. Hein, très tôt, hein, dès le lycée, en fait, il a des avatars.
Il y a le Jacques Tristan Hilar qui donne les Hilariens.
Les Hilariens, la galaxie hilarienne.
Jacques Do.
Jacques Do. Alors donc là, il a sa grand-mère, la mère de sa mère, Madame Vincent Do. Et lui, d'ailleurs, il va signer aussi des poèmes Vincent Do, D'O. Un poème que j'ai vu signé comme ça.
Jean-Michel Strogoff.
Jean-Michel Strogoff. Donc là, c'est une nouvelle dont le personnage central est Théodore Frankel.
C'est à Nantes qu'il meurt à 23 ans, mais c'est à Saint-Denis que l'on trouve la première rue Jacques Vacher. Et on dit que l'on doit ce nom-là à Éluard Fils, dont le père architecte, Éluard Père, aurait bâti le quartier.
Je l'ignorais, cette histoire. Vous me l'apprenez.
C'est à Saint-Denis.
Ah oui.
Une histoire de poète.
Oui. Amie Jeanne, enfin un peu d'arrière. Malheureusement, pas ce que nous attendions, mais enfin un peu moins de bruit et de la propreté. Je suis dans une bien belle cave très glaciale, cathédralesque et voûtée, avec un peu, tout de même, de lumière. Bien bonne par cette chaleur, mais grouillante d'animaux immondes. Toutefois, je m'y plais. Auprès, un verger impitoyablement fauché par le boche, fleuri, à terre, merveilleusement, sur une herbe drue, vert clair. Seuls, de dégoûtants frelons poilus, vous y disputent les repos tièdes des après-repas. Et des saucisses paisibles et molles, chauffant leur peau satinée au ciel, vous sont tout un paysage. Tout de même, si la guerre n'allait jamais finir. Tant cela apparaît par instant comme une nouvelle vie organisée, on ne sait plus quelle opinion avoir. Ma grande ambition actuelle serait quelques jours au bord de la mer, simplement. Du sable très blanc, une mer outre-mer, et un ciel éblouissant, avec, un peu loin, les bribes d'un orchestre assoiffé des bocs ruisselants. Car j'aime les endroits civilisés. J'envisage, vague espoir, une permission vers juillet, vers la fin de juillet. Mais d'ici là, recevez mon souvenir le meilleur et dites à Anne, mademoiselle, Anne-Marie, que je ne sais toujours pas répondre. Jack.
Jacques Vacher, dans le sillage du météore désinvolte, par Philippe Pijard, est publié aux éditions du Seuil, dans la collection Point. Sarima Kwa, 24 heures sur 24 sur franceculture.fr, pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Sarima Kwa, Jean-Michel Bernot, Claude Niort, Henri Leblanc, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre, avec Joël Gaillot.